Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Mouni.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Attaques, assassinats, enlèvements, séquestrations, ce sont entre autres violations des droits humains auxquelles les populations du centre notamment font face depuis des années. Environ 58% des 421 violations et abus des droits de l'homme enregistrés au cours du premier trimestre 2021 par la MINUSMA au Mali concernent le centre du Mali. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, des femmes sont éventrées dans cette partie du pays et des hommes y seraient castrés, qui violent donc les droits des populations dans cette partie du pays. Comment évolue la situation ces dernières années? Quelles sont les dispositions prises par l'État et ses partenaires? Le Grand Dialogue s'intéresse à cette question. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Nos invités sont Abdoul Karim Diarra, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ousmane Diallo, habitant de Sofara, qui est au téléphone, Maître Agui Boubouaré, président de la Commission nationale de défense des droits de l'homme, CNDH. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Boiré, je commence le débat avec vous par rapport au communiqué que vous avez publié il y a juste quelques jours dans lequel vous estimez qu'au centre du Mali, la situation est préoccupante et que des femmes y sont éventrées et qu'il y aurait même des hommes qui seraient castrés dans cette partie du pays. Qu'en est-il?
Merci beaucoup, Monsieur Touré. Je salue l'ensemble de vos téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement, comme vous venez de le rappeler, la situation des droits de l'homme est très préoccupante ces derniers temps dans notre pays. Donc, dernièrement, nous avons reçu une délégation, parce que nous, c'est sur la base des allégations de violation des droits de l'homme généralement que nous intervenons. Donc, nous avons reçu une délégation qui nous a fait cas des situations graves de violation des droits de l'homme, notamment des personnes éventrées et des hommes qui sont castrés pour pouvoir disposer de leurs femmes dans les localités. En plus de cela, les personnes sont même empêchées de faire les travaux champêtres sous la pression des djihadistes ou des terroristes. Donc c'est vous dire que c'est une situation intenable. Et les droits à la sécurité est violé, les droits à la vie est violé, les droits à l'intégrité physique est violé, les droits à l'éducation, etc. Donc vraiment c'est un ensemble de droits fondamentaux qui sont violés. Donc l'État est interpellé.
L'État est interpellé. Nous avons ici M. Abdoul Karim Diarra, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Êtes-vous au courant de cette situation, des femmes qui sont éventrées et des hommes qui seraient castrés au centre du Mali?
Avant de commencer, je tiens quand même à remercier tous ceux qui nous écoutent en ce moment précis, les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices. Pour en venir maintenant à votre question, effectivement, je pense que nul n'est sans savoir ce qui se passe au centre et au nord du Mali du fait de l'insécurité croissante qui a obligé l'administration de façon générale, souvent les forces de défense et de sécurité, à replier de certaines zones, la nature ayant horreur du vide. Il y a toutes sortes de groupes armés qui ont parfois occupé le terrain. La conséquence logique est effectivement de laisser aller les violations massives de droits de l'homme. Donc, je pense que c'est un secret des polichinelles. Effectivement, ce que la CNDH a constaté, je puis le croire, mais en tant que département, on n'est pas spécialement au courant de cette situation, mais on sait très bien qu'il y a des situations pires que ça qui peuvent se passer sur le terrain du fait de ce retrait stratégique de l'État, parfois à certains endroits, mais nous déplorons tout simplement cette situation.
Pires comme lesquels?
On a des enlèvements, on a des cas de meurtre, d'assassinat, des gens sont égorgés, des greniers sont pillés, brûlés, les animaux sont brûlés, les villages sont rasés, etc. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. C'est carrément le déni de tous les droits qu'on peut avoir en tant qu'être humain qui sont bafoués, et foulés aux pieds. Je pense qu'on ne peut pas avoir assisté à une situation pire que ça. C'est vraiment regrettable. Mais l'État n'est pas resté les bras croisés. Peut-être on va en arriver.
Revenir tout à l'heure. Monsieur Ousmane Diallo, vous êtes habitant de Sofara, une localité située au centre du Mali. Est-ce que vous êtes au courant de ces différentes violations, notamment les femmes qui sont éventrées et les hommes castrés?
Bonsoir, Monsieur Touré, bonsoir à tous les invités, bonsoir aux auditeurs de Radio Tamani. Je m'excuse, je suis dans une situation où je n'entends pas très bien. Donc j'ai entendu quand même quand vous êtes adressé à moi, sinon vraiment je n'ai pas entendu ce que les autres ont dit.
Alors il y a monsieur, je résume un peu ce qui a été dit, il y a monsieur Agui Boubouaré qui dénonce la situation qu'il juge préoccupante des violations des droits de l'homme au centre du Mali, et également oui. Il estime que selon les informations que son organisation a reçues, des femmes sont éventrées dans cette partie du pays, au centre du Mali, et également des hommes y seraient castrés. Il y a monsieur Abdoul Karim Diarra qui estime qu'il ne peut pas confirmer cela, mais il sait que des choses pires que celles-ci se déroulent dans cette partie du pays, des êtres humains qui sont égorgés, enlevés, séquestrés dans ce pays. Donc c'est un peu le résumé des deux interventions. Vous, quelle est la lecture que vous avez de la situation des violations des droits de l'homme dans cette partie du pays?
Oui, je ne refute pas ce que les uns et les autres ont dit, mais moi, je ne suis pas au courant de cela. C'est-à-dire que ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a des attaques de villages, souvent notamment. Il y a des attaques où souvent ils viennent, surtout sur la rive gauche du Bani. Ils viennent, ils préviennent à certains villages, ils leur disent de sortir, de quitter. Alors les gens viennent, ils viennent nous envahir sur la rive droite du Bani. Ça, c'est beaucoup viennent. Et nos villages sont remplis de réfugiés. Maintenant, ce qu'ils leur font là-bas, honnêtement, moi, je ne sais pas. Ce dont j'ai entendu parler, les femmes, quand même, ont dit que là-bas, personne ne peut aller là-bas, une femme, si tu n'es pas voilée. Ça, ce n'est pas possible. Et les hommes, ils coupent les pantalons. Ça aussi, j'ai vu de mes yeux des pantalons coupés. Mais des violences physiques sur les personnes, ça peut arriver, hein, mais honnêtement, nous n'avons pas eu connaissance de cela. À moins que ce soit des récalcitrants, parce que les djihadistes ont des principes. Quand ils vous disent quelque chose, c'est que vous refusez, ils s'attaquent à vous. Mais quand vous acceptez, généralement, ça a beau être dur, ça vous permet de passer. C'est ce que moi je peux dire, en tout cas par rapport au Fakala et par rapport à une partie de la région de Mopti. Je ne connais pas très bien toute la région, mais ce que je sais, ce que j'ai vu, ce dont j'entends parler, il s'agit de cela.
Donc vous n'avez pas entendu parler du fait que des êtres humains sont égorgés dans cette partie du pays?
Non, je n'ai jamais entendu. J'entends des disparitions. Maintenant, ils ont disparu comment? Sincèrement, je ne sais pas. Mais des disparitions, ça, il y en a. Je connais des gens même qui venaient à notre foire, qui ne viennent plus parce qu'ils ont été enlevés, ils ont disparu. Mais personne ne sait où ils sont. Ce qu'ils sont devenus pour la plupart, chacun peut épiloguer. D'autres disent qu'ils sont vivants, d'autres disent qu'ils ne sont pas vivants. Mais la preuve, honnêtement, moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas la preuve de comment on tue les gens ou comment ils disparaissent. Mais je constate qu'ils ont disparu, ça c'est vrai. Il y a des gens qu'on enlève, ils disparaissent. Ça c'est réel. Bon, les femmes aussi. Il y a certaines femmes, peut-être, à leurs yeux, sont récalcitrantes. Ils les chicotent. Ça aussi, on a entendu parler. Ils sont sans concession dans leurs principes. Ça c'est réel. Mais le fait de égorger, ça honnêtement, je n'en ai pas vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi je n'ai pas vu. Maintenant, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu nous trouver pour nous dire qu'il a vu des gens s'égorger.
Merci voilà. M. Diallo. On va demander à M. Boiré quelles sont les localités précises concernées par ces violations que vous dénoncez.
Bon, il y a précisément le cercle de Koro, Douanzan. C'est dans ces zones-là que nous avons des sources qui nous ont rapporté ces cas de violation des droits de l'homme. Et généralement, quand nous avons des sources, nous recoupons toujours. Il se trouve même qu'il y a des cadavres piégés par des bombes. Il y a des situations de ces gens qui se passent dans la zone. Et les femmes sont régulièrement violées. Donc il y a des violences sexuelles et sexistes dans ces zones. Par rapport à Ségou, Farabougou et d'autres zones, c'est vrai que nous n'avons pas enregistré des situations pareilles. C'est exactement, ils imposent leur dictat, ce qu'ils appellent le principe de la charia. Et il se trouve malheureusement qu'à un certain moment, on nous a parlé d'un accord où les gens seraient prêts à renoncer à des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Nous, nous trouvons cela inadmissible. Nous disons que la paix n'a pas de prix, mais la paix ne peut pas se construire sur la violation des droits de l'homme. Donc, en gros, ce que nous disons, c'est toujours sur la base des allégations, des témoignages et des sources crédibles.
Voilà. Les localités, toujours. Est-ce qu'il y a une localité qui est épargnée au centre du Mali aujourd'hui par ces violations des droits de l'homme, M. Diarra?
Bon, dit comme ça, je pense qu'il faut peut-être recadrer parce que je pense que ça, la situation qui a commencé au nord a commencé à dégénérer au centre en essayant d'embraser pratiquement tout le centre. Pour ne prendre que la région de Mopti, on sait très bien que au-delà du fleuve, derrière le fleuve, le procureur m'a confirmé que aucun officier de police judiciaire ne peut valablement se transporter pour mener des actes d'enquête. Donc ça en dit long. Il y a certaines juridictions du centre qui ont été obligées de remballer. Et je sais que Tenenkou et Yuwaru ont été officiellement délocalisés par une ordonnance de la Cour d'appel de Mopti. Ils tiennent leurs audiences dans des locaux maintenant mis à leur disposition par à Sévaré. Donc, parce que tout simplement, il ne peut pas y être. Le juge de Yuwaru a l'habitude de nous informer qu'il avait fait l'objet donc de menaces de mort. Des gens qui l'appellent pour lui demander des choses en lui disant qu'ils sont au courant de tous ses faits et gestes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse peut-être raisonner en termes, est-ce qu'il y a des localités épargnées? Je sais quand même qu'il y a, du fait de certains efforts de l'État de façon générale, certaines populations arrivent à tenir. Parce qu'on est en train de développer une sorte de résilience vis-à-vis donc de cette nouvelle forme de menace. Mais ce qui est sûr, l'insécurité c'est une insécurité générale. La menace, elle est là, elle est asymétrique. À tout moment, elle peut se concrétiser. Moi, je pense que la région, c'est toute la région qui est concernée par cette insécurité majeure, avec son corollaire quotidien, donc, de violation des
droits. Vous avez parlé de résilience, on va y revenir tout à l'heure. Mais déjà, est-ce que vous êtes en train de dire, puisque vous disiez tout de suite qu'il y a des policiers qui ne peuvent pas se rendre dans certaines localités pour mener des enquêtes, qu'il y a des parties de cette région qui échappent totalement au contrôle de l'État?
Absolument, parce que, vous savez, la base même de la violation de ces droits, de mon point de vue, c'est un problème sécuritaire. Juste pour prendre l'exemple de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire peut donc travailler seulement si la sécurité est garantie. La force de la justice, c'est effectivement les forces de défense et de sécurité.
Qui protège donc ces populations? Elles sont laissées à elles-mêmes?
Le temps que l'administration est absente, les forces de défense et de sécurité par moment sont absentes. Les populations semblent laissées à elles-mêmes. C'est dommage, mais je sais très bien qu'il y a des efforts conjugués des forces de défense et de sécurité qui sont en cours pour faire en sorte que l'administration quand même puisse être redéployée, ne serait-ce que pour desservir les services sociaux de base. Il y a des plans qui sont concoctés dans ce sens. Il faut peut-être attendre que ces plans mûrissent et puis qu'on les déroule concrètement sur le terrain. Donc, en attendant, les populations sont comme laissées à elles-mêmes. Mais l'État fait ce qu'il peut.
Monsieur Diallo, est-ce que vous pensez que les populations sont laissées à elles-mêmes et que l'État fait ce qu'il peut, comme le dit Monsieur Diarra?
Bon, en réalité, il faut qu'on relativise. Parce que celui qui dit que les populations sont laissées à elles-mêmes, vraiment, il a raison. Il a raison. C'est-à-dire que le Mali, vraiment s'arrête à certains endroits seulement. Sinon, chez nous, parler de Mali, c'est vraiment compliqué. Il y a très peu d'autorités là où nous sommes. Et les autorités ne se hasardent pas. Même nos foires, c'est sous encadrement. Certains groupes sont encadrés par des djihadistes, d'autres groupes sont encadrés par des donceaux pour venir faire la foire et repartir. Donc, ça veut dire que là, c'est difficile qu'on puisse parler d'existence de l'État. Mais bon, peut-être que nous, de notre point de vue, il y a certains endroits, ceux qui sont très proches des autorités de sécurité ou des camps militaires, où quand même il y a une certaine protection. Ils arrivent à se débrouiller. Donc, c'est pour cela que moi, je relativise toujours. Mais dans la majorité des cas, vraiment, l'État est absent. L'État est vraiment absent.
Monsieur Diarra estime que l'État fait ce qu'il peut. Est-ce que vous avez la même lecture de la situation?
Bon, dire que l'État fait ce qu'il peut, bon, c'est peut-être là où je peux être d'accord avec Monsieur Diarra, parce que nous savons que nous sommes un État pauvre. Parce que moi, je relativise toujours les choses. C'est un État très pauvre qui n'a pas suffisamment de ressources humaines, encore moins de ressources matérielles. Donc peut-être que c'est ça les possibilités de l'État. Sinon, moi, chez moi, il n'y a pas de forêt. Ils sont partis il y a longtemps, depuis les années 2013, ils sont partis, il n'y a plus de forêt. Il n'y a pas de service de sécurité, rien. Le commandant est là-bas, il n'a pas de garde. Et lui-même a peine, bon, il fait profil bas. Bon, mais d'autres services, par exemple, existent, l'agriculture existe. Certaines écoles sont ouvertes, d'autres sont fermées. Mais de façon générale, quand on parle, l'État, c'est notre État, c'est notre pays. Nous ne sommes pas contents. Même nous reconnaissons que l'État n'a pas les moyens qu'on veut. Mais nous ne sommes pas contents de l'État. Parce que pour nous, peut-être qu'on aurait dû faire plus.
Ah, M. Boiré, maintenant, vous disiez que l'État est interpellé. Quand M. Diallo dit tout de suite que l'État manque de ressources, est-ce que vous pensez réellement que c'est un manque de ressources ou que ce sont des ressources qui ne sont pas bien utilisées?
Bon, écoutez, chacun est dans son rôle. Nous pensons que l'État est débiteur en matière de respect et de protection des droits de l'homme. C'est sur la base de ce postulat que nous travaillons. Maintenant, nous ne nions pas les efforts que les forces de défense déployées sur le terrain font. Mais pour autant, ça ne peut pas être une excuse dire que l'État manque de moyens ou l'État est faible. C'est une obligation qui pèse sur la tête de l'État et l'État doit s'assumer. C'est d'autant des moyens qu'il faut. Imaginez que dans ces zones-là, dans certaines de ces zones, les populations vous disent clairement que pour avoir résisté et refusé de respecter certains principes qui violent leurs droits, on leur reproche. Certains représentants de l'État leur reprochent d'être durs avec les terroristes et d'accepter pour qu'ils aient la paix. Est-ce que cela est acceptable dans un pays normal?
Les représentants de l'État qui demandent aux populations...
Qui demandent à certaines populations d'accepter pour avoir la paix. Et que parce que ces populations-là sont têtues, et c'est pour cette raison que chaque fois, ils ont des problèmes. Et d'autres auraient accepté les exigences des djihadistes et vivraient en paix, comme il l'a rappelé, ce qu'il a appelé les principes des djihadistes. Cela ne peut pas marcher dans une république. Soit on est dans une république laïque, soit on est dans une république islamique. Donc on ne peut pas dire que certaines populations ont refusé que leurs pantalons soient coupés, ou bien que les femmes n'ont pas porté le hijab, que ça c'est une infraction dans la même république. C'est à ce niveau qu'il y a des difficultés. Donc nous estimons que l'État doit faire mieux. L'État doit faire mieux. Nous ne nions pas que les efforts sont faits par les forces de défense et de sécurité sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Et ce problème est en train de dégénérer. Et on redoute même que ça ne se métastase pour atteindre les régions du Sud. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas s'imaginer que dans certaines zones de Ségou, il pouvait y avoir de telles mesures de privation. Les gens sont même obligés de payer souvent la dîme des impôts locaux à ces terroristes pour pouvoir vivre en paix. Et on les empêche de cultiver et sous réserve de payer ces dîmes-là. Donc vous voyez à quel niveau nous dirigeons par rapport à ces violations des droits de l'homme.
Sommes-nous dans une république laïque toujours ou est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui islamique, comme s'interrogeait M. Boiré?
Que Dieu nous en préserve. Je pense qu'on est dans une république, je pense que ces situations...
Vous pensez ou est-ce que vous êtes sûr?
Non, je suis sûr. On va dire je suis sûr. Quand vous prenez l'histoire des nations, il y a des nations qui trébuchent. mais elle se relève toujours. Je pense qu'on est dans le processus, la trajectoire normale de l'évolution de tout État. On a vu peut-être, on a laissé le mal peut-être grandir sans étouffer à la source. Donc ça nous a pris à la...
Qui a fait ça, l'État voilà. malien?
Donc, ben, je pense que les responsabilités sont partagées. Je pense que quand on parle de l'État, il faut d'abord... c'est vrai, il y a un pouvoir, mais il y a aussi la population. Il y a un devoir citoyen qui est là. Je pense que ce sont ces éléments qui, ajoutés, donnent un sens à l'État.
Donc, Monsieur Boiré disait tout de suite que les représentants de l'État demandent aux populations d'accepter ce que demandent les présumés djihadistes pour avoir la paix.
Bon, moi je ne comprends pas qu'un représentant de l'État, quelqu'un qui est censé avoir le sens de l'État, puisse raisonner en ces termes.
Donc vous n'avez pas ces informations?
Pas du tout.
L'avez-vous signalé aux autorités du pays, M. Boiré?
Non, on est en train de constituer un dossier, mais je suis sûr que c'est des informations qui ne sont pas cachées. Les autorités sont au courant. Mais bon.
Il dit ne pas être au courant.
Oui, je comprends. Je comprends, mais bon, nous constituons les dossiers et nous établissons des rapports. Nous allons officiellement saisir qui des droits. Et sinon, sur le terrain, je pense que c'est des actes qui ne sont pas cachés.
Par rapport au rapport de la MINUSMA, elle indique qu'en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité maliennes, elles ont été responsables de 58 violations de droits de l'homme, soit une augmentation de 38,09% en comparaison au trimestre précédent, c'est-à-dire celle d'octobre à décembre. Donc entre janvier et mars 2021, 58 violations de droits de l'homme ont été commises par les forces de défense et de sécurité du Mali. Est-ce que vous confirmez ces informations données par l'administration?
Présumées commises, je préfère, parce que ce sont des rapports qui sont régulièrement adressés au département de la justice, l'administration, la CNDH, d'autres organismes indépendants qui recoupent les informations sur le terrain. Mais à chaque fois qu'il s'est agi donc d'adresser au département de la justice des rapports comme ça, le ministère systématiquement fait ouvrir par ses services des enquêtes pour s'assurer de qu'il y a quand même des indices ou des preuves au soutien de ces allégations, parce que ce sont des allégations qui sont beaucoup, beaucoup plus graves. Vous avez parlé d'exactions imputables parfois aux forces de défense et de sécurité. Je pense que chaque fois aussi qu'il en a été le cas, je pense que des poursuites sont engagées, des responsabilités sont situées et puis des condamnations sont prononcées. Je pense que les dernières audiences à Ségou de Bamako, du tribunal militaire de Bamako, délocalisées à Ségou, et l'audience donc de tenue à Mopti en disent long sur ces aspects-là.
Mais pourquoi ça continue puisque la MINUSMA parle d'une augmentation de 38,09%?
Bon, j'ai beaucoup de respect pour ce que la MINUSMA fait, mais ça reste une version de la MINUSMA. Il va falloir recouper.
Quelle est votre version des faits?
Nous, on n'a pas de version. Notre version, c'est celle issue des enquêtes. Voilà, donc il faut attendre qu'on recoupe ces... Parce qu'en l'État, ces rapports ne peuvent pas être pris comme de l'argent comptant par l'État. Il faut quand même, si chaque fois que les indices le commandent, quand même faire ouvrir par nos unités spécialisées des enquêtes pour s'assurer. Ça a été le cas pour Bounty, ça a été le cas pour l'attaque, par exemple, de la base de la MINUSMA à Douanzan, je pense, hein. Kérina, ça doit être ça. Ça a été le cas chaque fois qu'on nous a dénoncé des situations. Donc, le pôle judiciaire spécialisé est là, où les unités, les juridictions locales à travers les unités sont là. Vous pouvez vérifier ça au niveau du procureur général de Bamako. Des enquêtes ont été ouvertes suite à des faits dénoncés par la MINUSMA adressée au département de la justice. Donc, on n'est vraiment pas en reste en fait. Tout ce qu'on peut pour quand même réprimer ces violations-là.
Monsieur Diallo, avez-vous connaissance des exactions commises par des forces de défense et de sécurité maliennes au centre du Mali?
Bon, il y a ce que l'on apprend Ça, c'est vrai. Mais il y a également, dans la réalité, c'est difficile à savoir. Parce que souvent, on nous dit qu'il y a des gens qui portent des tenues qui ressemblent à des tenues maliennes et qui font des exactions sur les routes, bien qui barrent les routes. Bon, or, les endroits où on le dit, honnêtement, c'est un peu difficile à croire parce que il n'y a aucun camp à côté de là-bas. Donc, comment est-ce que les gens vont porter des tenues, quelques personnes seulement, et venir le faire? C'est un peu difficile à croire. Mais, bon, d'un autre côté, ceux qui le disent qu'ils ont vu de leurs yeux. Mais pour cela, bon, nous sommes dans une situation où c'est très difficile d'être catégorique. Mais ce qui est certain, dans une période d'insécurité, c'est sûr que de tous côtés, il y a des exactions. C'est sûr, peut-être. Mais, sûrement, l'armée, l'armée peut faire des bavures, mais des exactions volontaires. Bon, c'est possible vers le Haïré, c'est-à-dire que vers la zone du pays de Gon. Mais vers chez nous, c'est rare. C'est vraiment rare. Parce que chez nous, l'armée patrouille. Toutes les nuits, par exemple, l'armée patrouille tout le long des berges sur la rive droite du Bani, dans la zone de Soufara, en tout cas les alentours, le Goudron, la route nationale numéro 6 qui est là-bas. Toutes les nuits, on les voit patrouiller. Mais un peu plus loin, on sait qu'il y a souvent, il arrive que des villages sont attaqués. Parce qu'il y a toujours une semaine, on a attaqué un village, Yaro, qui a été sauvagement attaqué, mais pas par les militaires, mais par, en tout cas, des agresseurs inconnus.
Alors, par rapport aux auteurs, la MINUSMA cite les groupes djihadistes, les milices, les forces de défense et de sécurité, également les forces internationales Barkhane. Monsieur Boiré, comment évaluez-vous le niveau de responsabilité de ces différents acteurs cités dans le rapport de la MINUSMA?
Bon, à ce niveau, il ne nous revient pas en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme de situer les responsabilités, comme M. Diarra l'a rappelé, mais il faut expliquer aux gens que l'objectif de la MINUSMA ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme, ce n'est pas de jeter les discrédits sur l'État ou sur les forces armées de sécurité. L'objectif, c'est de lutter contre l'impunité et de contribuer à respecter et à faire respecter les droits de l'homme. Donc ces rapports-là doivent être compris sous cet angle. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que lorsqu'il y a des rapports sur les violations des droits de l'homme, c'est pour discréditer le pays. Non, ce n'est pas le cas. Ça doit profiter plutôt au pays. Parce qu'il s'agit, sur la base de ces rapports, d'ouvrir des enquêtes, des investigations judiciaires, comme il l'a dit, pour situer les responsabilités. Qui est coupable de quoi? C'est ce qui est demandé à l'État. Donc il faudrait bien que tout le monde comprenne. Peut-être que nous sommes à Bamako, nous croyons être à l'abri, mais nous pouvons avoir des parents sur ces terrains-là qui continuent d'être victimes de violations des droits de l'homme. Si on encourage l'impunité, est-ce que cela va s'arrêter? Donc c'est sous cet angle qu'il faudrait comprendre tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Ils ne sont pas les ennemis du Mali, et l'objectif, ce n'est pas de discréditer le Mali, mais l'objectif, c'est protéger les populations, comme cela relève de la responsabilité de l'État.
Avez-vous une idée du nombre de personnes aujourd'hui enlevées dans le pays et des localités qui sont sous embargo?
Bon, je n'ai pas une idée précise du nombre de personnes, mais je sais que quand même, il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, et pratiquement, comme les gens le disent, c'est pas une boutade, hein, à partir d'une certaine partie de Ségou, vous ne pouvez plus vous hasarder, alors qu'il s'agit du même pays. Donc c'est vous dire à quel point la situation est grave.
Vous avez-vous une idée du nombre de personnes et des localités qui sont sous embargo?
Une idée précise, non. Je pense que M. Boiré a marché sur ma langue, mais ce qui est constant, c'est que des disparitions sont enregistrées tous les jours. C'est devenu un mode opératoire, notoire. Donc, de ces groupuscules-là qui opèrent en toute impunité parfois, parce que c'est tout simplement difficile de les traquer, puisque toute la région semble être devenue comme un théâtre d'opération. Nous sommes en guerre. Donc ce n'est vraiment pas très facile, mais je sais que parmi leurs modes opératoires, il y a les enlèvements, les disparitions organisées de personnes.
Avez-vous des informations sur l'évolution de la situation à Farabougou, à Dinangourou?
À Farabougou, d'un point de vue judiciaire, non, parce que c'est une phase de sécurisation. Ça concerne d'autres segments de l'administration qui sont, à mon avis, mieux placés pour faire le point par rapport à cette situation. Mais quand on va nous livrer donc des cas à ce moment-là, nous entrons en jeu et on va collecter les données. Voilà.
Alors, vous parliez de résilience, de solutions, de dispositions prises par l'État face à ces violations des droits de l'homme, notamment au centre du Mali. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui par l'État face à ces violations ?
D'abord, pour ce qui concerne le secteur de la justice, il y a eu, par exemple, l'organisation d'audiences foraines, parce que les litiges naissent entre les populations, les membres de la population. Ils ne savent pas comment faire trancher ces litiges. Les juges étant obligés de replier, donc la justice, en relation avec des partenaires, ont organisé des audiences pour aller quand même vider ces contentieux qui attendaient. Ça, c'est par exemple une mesure de prise en charge. Donc, en plus de cela, comme je l'ai dit, on a délocalisé certaines juridictions du fait de l'insécurité. Cela vaut pour le nord que pour le centre. Je sais qu'il y avait Niafenke, Diré, Gundam, qui avaient été délocalisés, souvent de fait, souvent de droit. Et j'ai parlé du cas de Ténégou et de Yuwaru, qui ont été officiellement délocalisés, pour qu'ils puissent quand même rendre service aux populations. Et Badiangara, si je ne m'abuse, est resté fermé depuis plus d'un an du fait donc de l'insécurité. Mais comme mesure envisagée aussi, on a vraiment essayé depuis 2013 de réadapter notre dispositif judiciaire pour, en modifiant donc le code de procédure pénale à travers une loi qui, elle aussi, a été modifiée en juillet 2014, je pense que c'était du temps du ministre Malik Koulibaly, pour faire entrer dans la compétence, par exemple, du pôle judiciaire spécialisé, qui est une création de la loi modificative de 2013 du code de procédure pénale, pour prendre en charge les cas de violations graves du genre de la compétence de la Cour pénale internationale. Et les cas de violation du droit international humanitaire, les cas de violation des droits de l'homme. Donc, à l'interne, on doit pouvoir le faire. C'est l'État qui a fait ces efforts-là. Donc, il y a plus en plus de spécialisation d'acteurs de la chaîne pénale par rapport à cette nouvelle donne, pour qu'on puisse quand même nous rapprocher plus de réponses appropriées d'un point de vue pénal, d'un point de vue judiciaire. Donc, à tout cela, il faut certainement ajouter tous les efforts qui sont en train d'être faits en vue d'un retour de l'administration judiciaire aux côtés d'autres services qui desservent les services sociaux de base. Il y a un plan qui est concocté au niveau du département de la justice à l'effet donc de parvenir à...
Avec toutes ces mesures, est-ce que vous pensez que la situation s'améliore ou est-ce qu'elle se détériore?
Je pense que ce n'est pas seulement la justice, mais il y a tous les segments de l'administration qui ont une partition à jouer. Ces mesures peuvent aboutir dans le but de l'amélioration de la situation chez la population si l'aspect, la dimension sécuritaire venait à se mettre en place. Je sais par exemple qu'il y a des opérations militaires qui ont été essayées sur le terrain. Je pense à l'opération Dambé avant 2019, sinon 2019.
Mais ces dernières années, comment évaluez-vous l'évolution des violations des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative?
Non, mais je pense que tous les jours, on découvre de nouveaux cas de violations.
M. Bouhari, quelles sont les limites des mesures donc prises par l'État face à cette situation?
Bon, comme je l'ai dit, en fait... Nous ne nions pas les efforts qui sont en train d'être faits. La preuve, dans les rapports, on commence toujours par les acquis. Les acquis, ce sont les mesures adoptées par l'État dans le sens d'un meilleur respect des droits de l'homme. Mais pour autant, nous disons que la situation n'est pas reluisante, parce que la situation se dégrade de notre point de vue. C'est pourquoi nous demandons davantage d'efforts de la part de l'État. Et surtout la compréhension. Parce que, comme je l'ai dit...
Davantage d'efforts, ces efforts pourraient être quoi, par exemple?
Justement, il faut davantage de formation et de sensibilisation des forces de défense et de sécurité. Et puis, il faut rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour pouvoir facilement lutter contre le terrorisme. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une méfiance qui s'est installée entre ces deux composantes.
Mais si on prend en compte les données qui sont dans le rapport de la MINUSMA, qui estime que les forces armées de défense et de sécurité maliennes sont auteurs de cas de violation, est-ce que dans ces conditions, la confiance peut être rétablie?
Justement, parce que c'est une question d'approche. Parce que il y a certains éléments des forces de défense et de sécurité qui pensent que, en ne faisant pas le distinguo entre les populations et les terroristes, c'est cela la meilleure façon de lutter. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons toujours dit qu'on peut lutter contre le terrorisme, mais en respectant les droits des populations. Donc, les populations ont souvent peur chaque fois qu'elles voient des éléments des forces de défense et de sécurité. Parce qu'ils pensent qu'il y a toujours la théorie de l'amalgame. Pour ne prendre qu'un exemple, si on vous voit avec les traits d'une ethnie, on n'hésite pas à vous ôter la vie. Donc, il y a des situations comme ça qui se passent. Or, il se passe beaucoup de sessions de renforcement des capacités à l'intention des forces de défense et de sécurité sur le droit international humanitaire pour qu'ils comprennent que même dans la guerre, il y a des droits à respecter. Par exemple, on ne tire pas sur une population qui n'est pas armée. Et même les adversaires, lorsqu'ils déposent les armes ou les ennemis, on ne doit pas attenter à leur vie.
Est-ce qu'ils le font?
Bon, justement, ces cas de violation sont relatifs à des situations de ce genre.
Ah, Monsieur Diallo, quelles solutions proposez-vous pour lutter aujourd'hui efficacement contre les violations des droits de l'homme, notamment au centre du Mali?
Oui, mais écoutez, Monsieur Touré, vraiment, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas 100 solutions. Il y a une seule solution.
Laquelle?
C'est que l'État revienne. Il faut que l'État soit présent, c'est tout. Si l'État est présent avec ses règles et qui sont respectées, il y aura ça. Mais si l'État n'est pas là, c'est très difficile. Imaginez si quelque part, dans un coin, c'est la loi des djihadistes. Vous allez 15, 20 km plus loin, c'est la loi des dossos. Ailleurs, il n'y a même pas de loi. Et autre part, il y a la loi, on dit, de la République. Finalement, on ne sait pas à quoi se vouer. On ne sait pas. C'est l'État, il faut qu'il y ait une seule loi, une seule règle. Que l'État malien essaye par le moyen par lequel, si c'est par la paix, la négociation, si c'est par la guerre, si c'est par quoi que ce soit, que l'État vraiment retrouve sa présence dans ces endroits-là. Si l'État est présent seulement, à ce moment, les exactions-là, si on le fait, les tribunaux vont vous juger. Bon, simplement, je m'excuse une seconde.
Monsieur Diallo, vu l'évolution de la situation et de la façon dont elle est décrite par les représentants de l'État, les organisations de défense des droits de l'homme, les spécialistes des questions sécuritaires, est-ce que vous pensez que ce retour de l'État que vous demandez aujourd'hui est possible maintenant?
Tout de suite. Pour moi, l'État malien n'a pas les moyens de retourner partout en même temps, mais peut progressivement venir. Progressivement, c'est possible.
À quand s'attendre à ce retour progressif demandé par M. Diallo? Parce que selon lui, c'est la seule solution pour mettre fin à ces violations.
À quand ce retour? Je souhaite que ça soit demain.
Mais vous n'avez pas d'informations?
Pas du tout, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris, notamment par l'état-major général des armées. Je le sais parce que je travaille très souvent avec des officiers engagés sur ce chantier-là. Je voudrais aussi rappeler, sans faire l'avocat de l'armée malienne, que des efforts colossaux sont en train d'être faits en vue de discipliner les forces de défense et de sécurité, comme l'a rappelé M. le Président
Bouhari.
Oui, parce que quand des exactions sont avérées à l'encontre des forces de défense, c'est de l'indiscipline, parce que même la guerre a un visage humain maintenant. C'est les exigences du droit international humanitaire. Il faut humaniser la guerre. Si on ne peut pas empêcher le conflit, même si c'est un conflit international, armé non international, on va dire, il faut l'humaniser. Donc les règles sont là. Il y a des instruments internationaux auxquels le Mali a souscrit, qui impose, qui commande cela. Donc je sais très bien qu'il y a un directeur de la justice militaire qui est vraiment engagé, pas plus tard que dans les temps, dans les jours voisins. Je sais qu'il y a des ordres de poursuite qui ont été mis au tribunal, par exemple.
En attendant les résultats.
Pour poursuivre des gens qui sont présumés. Voilà,
en attendant les résultats de toutes ces formations, de toutes ces mesures prises et le retour de l'État même, à quel sein ces populations qui souffrent de cette situation doivent se vouer?
Grosse question. À quel sein ils doivent se vouer? Je pense qu'on est en guerre, il ne faut pas l'oublier. On a un État faible qui essaie de se relever avec détermination. Je suis sûr qu'on va arriver parce que les militaires sont pratiquement à main nue, mais ils font des exploits. Je sais qu'il suffit de les encadrer et de leur donner plus de moyens pour qu'ils occupent le terrain. Donc tous les efforts qu'on aura à entreprendre, on a beau être volontaire, si l'aspect sécuritaire n'est pas bien géré, je pense qu'on ne peut rien faire. Ceux qui gèrent la guerre peuvent nous donner des délais par rapport à ça. Mais moi, je souhaite que ça soit demain, assez rapidement, parce que les populations souffrent.
On va y arriver, mais quand, selon vous, M. Boiré?
Bon.
Est-ce que vous êtes optimiste pour dans un, deux mois?
Quand vous... Je suis obligé d'être optimiste pour le pays, mais ce que je vois sur le terrain ne me rassure pas, malheureusement. Parce que lorsque les populations vont jusqu'à désespérer, c'est dire que elles sont obligées finalement de suivre les principes, entre guillemets, des terroristes. Ça veut dire que vraiment, ils n'ont pas d'autre solution. Or, ce que moi, je regrette surtout, je ne crois pas qu'à un haut niveau de l'administration, que les gens aient une conscience claire et nette du respect, de la nécessité, de l'obligation de respecter les droits de l'homme. M. Diallo l'a dit. En fait, les retours de l'État même, c'est le début de la mise en œuvre des droits de l'homme. Les services sociaux de base, la santé, la justice et l'éducation, ça c'est des violations des droits de l'homme. On ne peut pas faire un distinguo entre différents droits, dire que ces droits-là sont privilégiés par rapport à d'autres. Mais les droits qui déterminent tous les autres droits, c'est le droit à la vie. Or, il est porté régulièrement atteinte à ces droits. Donc, moi, je souhaiterais que les plus hautes autorités comprennent dans un premier temps que les droits de l'homme ne sont pas les ennemis des forces armées de sécurité, encore moins les ennemis de l'État. Si on intègre cela, en ce moment, on peut facilement assumer ses responsabilités des représentants de l'État et dire qu'on a l'obligation, sur la base des instruments juridiques qu'on a signés, en toute souveraineté.
Et le temps fait défaut. Merci à Maître Aguibou Boiré, président de la Commission nationale de défense des droits de l'homme, CNDH, Ousmane Diallo, habitant de Sofara, dans la région de Mopti, et Abdoul Karim Camara, conseiller technique au ministère, Abdoul Karim Diara, pardon, conseiller technique au ministère de la Justice et des droits de l'homme. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani, toutes les Voix du Mali, vous avez suivi ce débat sur 85 radios en live sur Facebook et ce soir à 21h30 sur Renouveau TV, sur Énergie TV plutôt, et à 23h sur Renouveau et Belédougou TV. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Nouhoum Djiré, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.